participe à ton tailgate. Texte Greg au 514-790-0919. Tailgate Weekend. BPM Sport.
Patrick Friolet, le Big Paddy Ice Friolining. Comment ça va, mon ami?
Ça va très bien, toi?
Écoute, ça va à merveille. Mieux que chez Ferrari, en tout cas, mais ça, on s'en parlera peut-être en fin d'intervention. Et ouais. Quand il pleut, il mouille, hein, chez Ferrari, puis pas à peu près.
Ouais.
Le Canadien est la meilleure équipe en troisième période dans la Ligue nationale au cours de la dernière semaine. Ça, c'est la bonne nouvelle. Faudrait aussi qu'on soit peut-être meilleur en première période.
Oui, ça c'est clair. On s'en parlait d'ailleurs hier matin. On disait à quel point c'était important de s'établir en début de match puis de pas répéter les mêmes choses qu'on avait vécues contre les Sénateurs. On a quand même marqué 5 buts en troisième période contre les Sénateurs. Il y en avait 2 là-dedans qui étaient en filet désert, mais quand même. Ensuite, 2 buts contre les Islanders en troisième. Et là, finalement, une grosse poussée de 3 buts en troisième période pour le Canadien pour créer l'égalité. On s'est compliqué la vie peut-être pour arriver là. C'est signe quand même d'une équipe qui abandonne jamais, qui démontre beaucoup de combativité. Du côté de l'Avalanche, on trouvait qu'on avait comme un peu baissé la garde. On s'était éloigné du plan de match pendant quelques minutes, puis le Canadien a mis le pied dans la porte puis est rentré par la suite pour créer l'égalité. Mais c'est quand même un témoignage à quel point cette équipe-là est dédiée en ce moment. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe avec le Canadien. Honnêtement, à 4-1, quand Brock Nelson a marqué, j'ai regardé Luc Gélina qui était à côté de moi sur la galerie de presse. C'est rare qu'on est ensemble. Là. Puis j'ai dit, bon, eh bien là, c'est pas mal terminé. Puis on pensait jamais à ce moment-là que le Canadien avait les réserves pour revenir, surtout de la façon dont l'Avalanche avait établi son jeu, avait joué rapidement, avait beaucoup de tempo. Martin Saint-Louis l'a bien résumé. Il a dit les 2-3 premières minutes du match, puis c'est vrai, là, le Canadien était agressif en fond de territoire. On avait Josh Anderson qui était comme une boule de quille, qui fonçait dans tout le monde. Puis le Canadien semblait vraiment avoir un bon départ. Puis finalement, tout à coup, ça a complètement changé de bord. Puis là, tout à coup, c'était rendu 16-2 pour les tirs au but. Donc vraiment, là, l'Avalanche, c'est une équipe vraiment impressionnante.
Oui, et c'est je sais que j'en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est pas le même... On dirait en anglais, c'est pas le même animal qu'on a croisé au début janvier. Là. Les changements qui ont été apportés à cette formation-là, à la date limite des transactions, ont porté leurs fruits. Très, en fait, il n'y a pas une acquisition, on dirait, qui ne fonctionne pas présentement pour l'Avalanche. Et eux autres sont posés, balancés pour veiller très, très tard en série, mais il va falloir passer à travers le premier tour. Bref, ça, c'est un autre histoire.
Non, mais en plus, c'est parce que non seulement on va chercher un joueur, on va en chercher 2 joueurs de centre. On va chercher des gars d'expérience comme Charlie Coyle et Brock Nelson qui ont énormément d'expérience. Charlie Coyle a joué tout un match hier, a eu plusieurs occasions de marquer, gros but en tir de barrage. Brock Nelson est toujours un poison contre le Canadien. À l'époque où il était avec les Islanders, avait souvent des bons matchs contre eux. C'est un gars qui est solide en série. Donc, ça va être très dangereux pour la profondeur de l'Avalanche. Là, ça va être une équipe difficile à contrer.
Il y a Juraj Slafkovský qui nous a parlé dans le vestiaire après le match. La première question qu'on lui a posée, c'est comment compares-tu cette équipe-là aux autres de la Ligue présentement? Il a répondu top 3 facile. Les gars ont travaillé très, très fort hier dans ce match-là. On voyait qu'à certains moments, ça allait vite. Le rythme était élevé. Tu l'avais bien dit dans ta chronique hier. Ça a été tout un rythme qu'on nous a imposé. Mais on s'est levé en troisième période. Et Juraj Slafkovský, justement, qui lui aussi s'est levé, qui était le meneur en offensive avec ses 2 buts hier. Ça va bien présentement pour lui, là.
Ben vraiment, il est sur une excellente lancée. 17 points à ses 21 derniers matchs. Là. Si on, à partir du moment où il s'est mis en marche, là, ça a commencé à peu près le 25 janvier pour lui. Puis là, au retour de la pause des 4 nations, il nous avait dit aussi à quel point il n'avait pas été satisfait de ses statistiques, qu'il voulait en apporter plus. Ben là, finalement, les statistiques sont au rendez-vous. Puis ce que j'ai adoré dans son jeu d'hier, le deuxième but qu'il marque, parce que le but de Joshua Roy qui fait 4-2, à ce moment-là, on se dit, on est content pour Joshua Roy, mais on se dit, c'est dommage que ce but-là arrive tardivement comme ça. Quand même, on est à mi-chemin dans la période. Mais le but qui a vraiment permis d'y croire, c'est seulement 30 secondes plus tard. Puis c'est Slafkovský qui gagne une bataille le long de la rampe contre Ryan Lindgren. Puis là, tout à coup, tout s'ouvre devant lui, puis il rentre dans l'enclave. Puis là, moi, dans ma tête, je me disais, OK, mais shoot, là. Parce que, tu sais, Slav nous a souvent habitués à hésiter un peu avant de décocher. Puis là, il est rentré.
Il a pris la bonne décision.
Ben oui, mais là, l'opportunité, c'était ça. C'était faut que tu tires. Tout est ouvert devant toi. Moi, j'ai aimé comment il s'est comporté dans cette bataille-là, parce qu'au début, il perd sa bataille, revient une deuxième fois, puis là, c'est avec son bâton, utilise son corps, puis finalement, Ryan Lindgren déjoué entre les patins, puis Slavkovski qui décolle. Mais je vais te sortir une statistique que je trouvais vraiment intéressante par rapport à Slavkovski, qui va permettre de mettre les choses en perspective. Tu sais, ce qui fait la différence pour les joueurs élite comme en ce moment Nick Suzuki, Nathan MacKinnon, Connor McDavid, ces gars-là qui ont des bonnes séquences offensives, ben c'est les points en avantage numérique. Mais du côté de Juraj Slafkovský, dans ses 21 derniers matchs, je te l'ai dit, 17 points, 16 de ces points-là, c'est des points à forces égales. Ce qui veut dire que à 5 contre 5, son jeu est là. Il réussit à créer de l'espace, il réussit à créer des jeux en zone offensive. Ça, c'est vraiment encourageant. Si on vous disait que sur ses 17 points, il y en avait 15 en avantage numérique, on dirait, ouais, ben c'est plus difficile pour lui dans le jeu à force égale de gagner ses batailles et puis tout ça. Mais là, de voir que c'est autant penché du côté des forces égales, c'est vraiment encourageant parce que c'est ce qu'on recherche de la part de Juraj Slafkovský. On veut qu'il soit une force sur la patinoire. Puis dans la dernière séquence de match, c'est vraiment ce qu'il nous démontre. Là, par la suite, ben s'il fait juste contribuer un petit peu plus en avantage numérique, ben les chiffres vont encore plus augmenter pour lui parce que cette base-là, à 5 contre 5, est bien établie pour lui.
Ouais, il joue son rôle en avantage numérique, effectivement, mais on a l'impression que on place ça en ce moment en avantage numérique, là, Pat. Tu sais, on voit.
Oui, puis mais c'est autant de points. Slafkovský, c'est autant de points que Connor McDavid dans ses 20 derniers matchs à force égale. 16 points. Même chose, il est à égalité avec Leon Draisaitl. Il y a seulement un point de moins à force égale dans les 20 derniers matchs que Nathan MacKinnon. C'est quand même pas rien, là. Tu sais, donc. Pour un gars qui a été repêché premier au total puis qu'on espère qu'il produise, ben en ce moment, il nous démontre qu'il est capable de le faire. Il l'a fait tardivement dans la saison, mais il le fait présentement.
Il livre la marchandise, effectivement. Ce que j'espère maintenant, c'est qu'il l'a fait l'an dernier en deuxième moitié de saison. Il l'a fait cette année en deuxième moitié de saison. J'espère que l'an prochain, il va bâtir sur cette progression qu'il connaît, commencer la saison de cette façon-là qu'on verra toute l'étendue de son talent et ses résultats, ses exploits pour toute la saison.
Ouais, vraiment. C'est là où je pense qu'il est tellement dur envers lui-même qu'il va être le premier à le dire à la fin de la saison, peu importe qu'on fasse les séries ou non, par rapport à sa performance personnelle, va avoir regretté d'avoir commencé plus tard. Mais je pense que c'est dans sa progression, il est encore très jeune, il comprend des choses. Là, je pense qu'il y a vraiment plus, il habite un peu plus le genre de joueur qu'il doit être. Il comprend plus les choses. Puis, à un moment donné, on a travaillé beaucoup aussi avec lui. Là. On a fait comprendre des choses à Juraj Slafkovský. Kent Hughes l'avait défié plus tôt dans la saison aussi. Puis, c'est un gars qui, comme je me répète, mais il est tellement fier, puis il veut tellement contribuer, puis il se pousse constamment. Il va avoir un match de 3 points, puis le Canadien va perdre, il sera pas content, tu sais. Puis il veut vraiment être un gars qui fait la différence, puis présentement, c'est ce qu'il nous démontre.
Il était pas content dans le vestiaire hier, là. Moi, je l'ai pas vu sourire. Je sais pas si toi tu l'as vu. Moi, je l'ai pas vu sourire. Il a répondu aux questions très sérieusement. Ouais. Ça ne faisait pas plaisir, ce résultat-là. Il voulait absolument aller chercher la victoire. Bien que les joueurs étaient fiers de leur effort. Tu sais, Juraj Slafkovský, lorsqu'il est détendu, tu l'as dit, il est vraiment dur sur lui-même. Mm-hmm. Mais il va avec humour souvent. Tu sais, quand il nous a révélé, il dit hey, parfois, là, j'aurais pris Lane Hudson premier, puis je me serais choisi 62e. Tu sais, ça fait partie de voir les choses de la bonne façon. Tu sais, d'être sérieux là-dedans, mais pas trop s'en faire non plus avec la vie. Enfin bref, voyons voir ce qu'il va nous donner l'année prochaine. Présentement, très satisfait de sa progression. T'as parlé aussi à Jared Bednar, qui t'en a appris une bonne sur Jonathan Drouin. À qui t'as parlé aussi, Pat, en 2 minutes?
Oui, on a parlé, on est rentré dans le vestiaire après le match. Il y avait parce qu'en fait, hier, je partageais le travail avec Luc. Luc faisait les Canadiens, puis moi, je couvrais le vestiaire adverse pour avoir des réactions de Jonathan Drouin. J'ai parlé à Cale Makar, Brock Nelson. Par la suite, je suis sorti, puis on a parlé à Jared Bednar. Très sympathique d'ailleurs, là, vraiment un gars qui disait, ça nous a donné un bon show, cette game-là. C'était un très bon match de hockey. Il savait que le Canadien était une équipe qui pouvait avoir une bonne poussée en troisième période. Il était au courant là, de comment les choses s'étaient passées dans les 2 matchs précédents. Puis, ce qu'il nous a confié, c'est que en tir de barrage, les 3 premiers, ça a été Charlie Coyle, Nathan MacKinnon, qui était là aussi, puis il y a eu Nichushkin. Puis par la suite, ben c'était, il a dit, je voulais envoyer Jonathan Drouin. Puis Drouin s'est retourné, puis il a dit, ben je peux y aller, mais je pense que tu devrais envoyer Brock Nelson, parce qu'avec sa feinte, je pense qu'il va être capable de battre Montembeau. Il l'a vu dans les séances d'entraînement, il savait ce qu'il était capable de faire, puis Jonathan Drouin, là, c'est un brain de hockey, là. Il adore regarder des choses, il suit encore les matchs du Canadien, d'ailleurs, il est très au courant de comment ça se passe avec l'équipe, mais tout ça pour dire que Drouin s'est interposé, a dit à son coach, essaye d'envoyer Nelson. Finalement, son coach a dit, ben écoute, je vais me fier à toi, on va le faire, puis Nelson a marqué le but qui a fait la différence. C'est quand même intéressant de voir que son coach lui a fait confiance, puis que Drouin était assez connaissant de comment les choses pouvaient se dérouler. Puis en même temps, c'est une belle histoire. Brock Nelson, qui vient d'être acquis, se met beaucoup de pression lui aussi pour avoir des résultats. Puis là, ben, il va chercher un gros but gagnant. Charlie Coyle aussi, le nouveau, nouvellement acquis, qui marque un super beau but en tir de barrage. Donc, ces gars-là vont faire la différence. Puis c'est pour l'esprit d'équipe dans l'Avalanche d'avoir des nouveaux gars qui contribuent à une victoire comme ça. C'est payant pour eux.
Ouais, c'était le nom que tout le monde attendait pour premier en tir de barrage avec l'Avalanche du Colorado. Charlie Coyle. c'était vraiment ça.
Mais ce que Bednar disait, c'est qu'il s'est fié aux statistiques parce que Charlie Coyle a tiré souvent dans sa carrière en tir de barrage, puis c'est un gars qu'on sous-estime pour la qualité de ses mains. Moi, j'ai souvent suivi des matchs des Bruins de Boston dans les dernières années. J'ai un jeune fan des Bruins à la maison. Puis dans les séries aussi, de voir un gars comme Charlie Coyle qui est dominant dans certaines situations, puis qui peut vraiment se sortir d'espace avec ses mains. Il l'a démontré dans les séries au cours des dernières années. Donc, c'est un gars qui est sous-estimé pour ça, puis qui nous l'a démontré hier.
Frio, merci beaucoup encore une fois pour ce week-end parfait. On se reparle samedi. J'ai déjà hâte.
Un grand plaisir. On va espérer qu'il n'y aura pas trop de bisbilles avec Ferrari.
Non, non, il n'y a pas de course, fait qu'ils peuvent pas mal faire. Ça, c'est certain.
Je pense que Lewis a appris quelques jurons en italien là, assez rapidement. Ça a été un crash course ces deux derniers week-ends, je pense.
Tu sais, j'ai une autre expression bien de mon cru qui est des fois, t'es le marteau, des fois, t'es le clou. Et le marteau, c'était samedi, puis le clou, c'était dimanche. C'est pas mal ça qui est arrivé pour Ferrari.
Exact.
Salut, mon chum.
Bonne journée.
Attention à toi. Bye-bye. Patrick Friolet.